baisse des dotations au accueil des réfugiés, Daniel Spagnot et des maires du 04 manifesteront samedi devant la préfecture.
C'est en tant que président des maires des Alpes de Haute-Provence que Daniel Spagnot se mobilisera avec d'autres édiles samedi devant la préfecture. Il détaille les raisons de cette manifestation inédite et nationale au micro de Patrice Vernet, en cause notamment les réductions des dotations prévues par l'État qui vont atteindre 28 milliards d'euros, dont 56% pour le bloc communal. Un montant devenu insoutenable et qui va contraindre tôt ou tard à ponctionner les administrés. Autre impact de ces restrictions budgétaires, les communes doivent contenir les dépenses et autres investissements. C'est pourquoi les fédérations du BTP, qui sont les premières impactées, seront aussi présentes au sein du cortège. Autre sujet brûlant et au cœur de l'actualité de ces dernières semaines, l'accueil des réfugiés. Nous devons les accueillir dans les meilleures conditions possibles, assure le maire de Sisteron, qui met en garde ses homologues des plus petites communes. Il ne s'agit pas de recueillir des migrants pour garder une école ouverte ou pour augmenter le nombre d'administrés. Il s'agit bien d'un engagement responsable et réfléchi. Selon lui, la situation aurait dû être prise en compte dès le début du phénomène afin d'éviter cet exode. Il insiste sur la nécessité d'une cohésion internationale rapide. Daniel Spagnot.
Il s'agit d'une journée nationale organisée par l'Association des maires de France. Donc pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, puisque les maires n'ont pas pour vocation de manifester, ils subissent souvent les manifestations, mais là, devant le ras-le-bol général, devant la baisse des dotations de l'État, devant les nouvelles compétences que l'État transfère aux collectivités sans qu'il y ait la contrepartie financière, eh bien ils ont décidé, gauche-droite réunie, d'aller devant chaque préfecture, pour dire au gouvernement, halte là, vous êtes en train de démolir les collectivités locales. Il y a encore dans notre pays, heureusement, les collectivités qui fonctionnent bien. Et là, avec la baisse des dotations, vous allez mettre en difficulté également les entreprises, les artisans, tous ceux qui vivent directement des collectivités locales.
Certaines collectivités sont, on peut le dire, riches, d'autres beaucoup moins, et notamment en zone rurale. C'est le cas dans le 04.
De toute façon, les zones rurales souffrent beaucoup plus que les grandes villes, parce que la baisse des dotations dans les grandes villes, bien sûr qu'elle s'est fait sentir, mais ils ont de tels moyens que par rapport à nous, c'est beaucoup moins fort. Donc ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement, mais malheureusement le président de la République n'a rien annoncé de particulier hier pour les zones rurales, contrairement à ce qui s'est dit dans la presse, et les 500 millions dont il a parlé, c'est déjà des mesures qui ont été votées depuis longtemps, qui ne sont pas appliquées. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Il faut que le gouvernement cède, non pas nous prendre encore beaucoup d'argent en 2016-2017. Eh bien, il faut que ce qui doit nous prendre pendant ces deux années, ce soit étalé jusqu'en 2020. Ça nous donnerait quand même un petit peu d'air dans nos budgets pour pouvoir encore investir, pour pouvoir maintenir les emplois. Parce qu'alors on nous dit, il faut supprimer des emplois, mais ça va faire des gens au chômage. Il faut moins investir, ça veut dire que les entreprises auront moins de travail et vont être au chômage. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter que la Fédération du bâtiment a souhaité participer à la manifestation de samedi matin devant la préfecture, que j'ai accepté bien sûr, parce que les premiers concernés par la baisse des dotations, ce sont les entreprises et les artisans.
À titre d'exemple, Sisteron, une des plus grandes communes des Alpes de Haute-Provence, en chiffres, concrètement, ça voudrait dire quoi ces baisses?
Écoutez, on est déjà à 2 500 000 euros, c'est vite vu, donc, parce qu'on est considéré comme commune riche. Alors nous, on a la double peine, c'est qu'on a la baisse des dotations et on a aussi un fonds de péréquation qui prend aux communes dites riches pour donner aux communes dites pauvres. Mais ce fonds de péréquation, je vais vous donner un exemple. La ville de Nice et la ville de Sisteron, c'est pas comparable quand même en richesse. Il suffit d'aller à Nice pour voir les travaux gigantesques qui ont été faits. Eh bien, quand un Niçois paye 3 euros pour le fonds de péréquation, un Sisteronais en paye 100. Donc on estime qu'on est bien plus riche que la ville de Nice. Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond et qu'il faut remédier, il faut revoir ce fonds de péréquation. Il faut que le gouvernement fasse deux politiques bien distinctes, les villes d'un côté, la ruralité et la montagne de l'autre, parce qu'on a des espaces énormes à entretenir, ce que n'ont pas les grandes villes. On a des services publics qui s'en vont de partout Et si on ne prend pas garde, eh bien, dans moins de 10 ans, on sera une véritable réserve d'Indiens, c'est-à-dire qu'il y aura des communes qui n'auront plus d'âme, qui n'auront plus d'école. Alors, il faut que le gouvernement nous dise clairement, ben, écoutez, la ruralité, on n'en veut plus. On veut que tous les gens se regroupent auprès des grandes villes. Mais qui entretiendra les paysages? Qui entretiendra les montagnes à ce moment-là?
On ne cesse d'annoncer qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Cependant, dans beaucoup de communes, on voit que, par exemple, la taxe foncière, les communes sont plus ou moins contraintes de les augmenter et à de forts pourcentages.
Oui, alors là aussi, c'est scandaleux, c'est un mensonge de la part du gouvernement et de l'État, faire croire aux gens, mais personne n'est dupe, que les impôts baissent de partout. Moi, les miens, en tous les cas, n'ont pas baissé, ils ont augmenté. Mais en même temps, l'État, qui nous a beaucoup pris d'argent ces dernières années, 80 milliards quand même, de plus, eh bien, va faire un cadeau de 2 milliards sur 80 milliards. 2 milliards, c'est-à-dire on va baisser les impôts de certaines catégories. Ça va représenter à peu près 2 milliards. Bon, c'est-à-dire est dérisoire par rapport aux 80 milliards d'augmentation qu'il y a eu ces dernières années. Donc, les communes, si elles veulent continuer à maintenir les services publics de proximité, il faut qu'elles augmentent les impôts locaux. Et c'est ce que nous demande le gouvernement. Les impôts locaux, c'est quoi? La taxe d'habitation, ça tout le monde la paye, sauf les gens exonérés, bien sûr, et le foncier, surtout ceux qui construisent ou qui sont propriétaires ou d'un appartement ou d'une villa. C'est une injustice flagrante. Mais moi, j'ai vu des communes, même dans notre département, qui ont été obligées d'augmenter d'un coup de 20%. Par chance, nous n'avons pas augmenté en 2015. Mais je ne sais pas si on ne va pas être obligé d'augmenter en 2016.
Pour terminer, parlons quelques instants des personnes qui sont en exil. Faut-il que l'Europe les accueille?
Écoutez, bien sûr qu'il faut que l'Europe les accueille, mais il aurait fallu quand même s'en préoccuper avant. On a laissé pourrir la situation pendant des mois, on a laissé devenir une situation qui ne fait pas du tout honneur à l'Europe. Et puis il faut aussi regarder de près ceux qui viennent pour des raisons économiques. Ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui viennent pour des raisons politiques. C'est-à-dire il y a des réfugiés politiques qui sont obligés de partir de Syrie ou d'ailleurs parce qu'autrement leur vie est menacée. Puis après, il y a tous ceux qui viennent pour essayer de trouver du travail et vivre mieux en Europe. Donc, on ne peut pas accueillir tous ces gens en même temps. On voit bien, regardez, depuis 48 heures, l'Allemagne qui avait ouvert ses portes, et je pense qu'elle les a peut-être ouvertes un peu trop tôt, et en faisant un peu trop de publicité, parce que du coup, maintenant, elle est obligée de fermer les frontières, parce qu'il y a un afflux tel d'immigrants qu'elle n'arrive plus à subvenir à leurs besoins. Alors, moi, je ne suis pas contre. Bien sûr qu'on accueille des immigrants, on doit les accueillir dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, il vaut mieux les accueillir près des villes où il y a des associations qui s'en occupent, où il y a des services pour pouvoir les recevoir. Mais après, je mets en garde quand même les maires des petites communes. Il y a deux maires qui m'ont appelé en me disant, moi, il me manque 4 ou 5 élèves pour maintenir l'année prochaine mon école. Ce serait bien si je pouvais avoir une famille ou deux avec des élèves. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça, un migrant. Si c'est pour boucher des trous et pour essayer d'avoir un peu plus d'habitants dans sa commune, je crois que les gens se trompent. Un migrant, c'est faire preuve de solidarité, et c'est-à-dire les prendre en charge complètement jusqu'au jour où ils auront des papiers officiels et qu'ils auront trouvé du travail. Mais comment vont-ils trouver du travail dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs? Comment vont-ils trouver du travail dans les zones rurales où il n'y a plus un seul commerce, il n'y a même plus un artisan? Donc attention, il faut prendre des précautions, bien réfléchir, c'est une lourde responsabilité. Donc bien sûr qu'il faut qu'on soit solidaire. Moi, si des familles accueillent ici, assisteront des migrants, eh bien on sera là, nous la commune, pour aider ces familles-là. Mais on a regardé et on n'a pas d'appartement de libre qui appartienne en tous les cas à la commune de Sisteron pour pouvoir accueillir des migrants.
Le président annonce des frappes aériennes. Est-ce que selon vous c'est suffisant?
Écoutez, moi je pense que c'est trop tard. On aurait dû depuis longtemps s'occuper un peu de cette situation, notamment en Syrie. Mais quand on voit que les frappes aériennes des États-Unis, par exemple, n'ont servi à rien, je vois pas à quoi vont servir les nôtres. Je pense qu'il serait bon quand même qu'il y ait un sommet international là-dessus et qu'on voit comment on peut mettre hors d'état de nuire Daesh. Parce qu'il faut savoir que si demain la Syrie tombe, c'est Daesh qui s'installe en Syrie. Et là, on aura à ce moment-là un véritable pays. Donc, je pense qu'il y a de quoi être très inquiet et qu'il faut déprendre quand même le taureau par les cornes. Il va y avoir une discussion, je crois, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'espère que de cette discussion sortiront des idées qui iront dans le bon sens.